C'est qui ce travail ? Tous les mois, sur CFM, des parcours exemplaires de femmes qui exercent des métiers dans lesquels elles sont peu représentées. C'est qui ce travail ? Une émission de la Maison de l'Emploi Midi-Quercy, réalisée par Nathalie Dufort.
En ce joli mois de mars, dans C'est qui ce travail ? Ce sont les femmes du bâtiment qui ont la parole. Et pour nous accompagner, ce sont des femmes musiciennes qui soufflent dans leurs trompettes et leurs tubas. Et encore, une femme qui chante ses propres chansons et compos en s'accompagnant au piano. Apparemment, elle a le blues du poulpe. Oui, c'est encore surprenant, étonnant et rare de voir des femmes travailler dans le bâtiment et les travaux publics et de voir des femmes jouer d'un instrument de la famille des cuivres. Qui est à l'honneur ? Ben, 5 femmes qui pourraient vous donner envie de faire la même chose qu'elles. C'est le but de l'émission. Donc, dans l'émission, on fait parler des femmes qui exercent un métier sur lequel elles sont peu représentées en nombre. L'idée, quand même, c'est de donner à entendre des modèles positifs, mais c'est aussi de travailler sur nos représentations, parce qu'on en a tous. On a des représentations sur ce qu'une femme peut faire et ce qu'un homme peut faire. On a des réticences aussi à aller vers des métiers dans lesquels on a un univers exclusivement masculin et à l'inverse, pour les hommes, à aller dans un métier où il n'y aurait une majorité de femmes. Donc là, j'ai voulu quand même poser des questions. Le bâtiment, est-ce que c'est fait pour les filles ou pas, quoi ? Enfin, je veux dire, il faut qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, parce que dans les représentations qu'on a, on est sur c'est des métiers pénibles, il faut de la force physique. L'idée, c'est d'ouvrir le débat. C'est pas de dire les employeurs, ils ne recrutent pas des femmes. Ou de dire les hommes sont particulièrement sexistes. Les femmes ne veulent pas y aller, elles pensent que ce n'est pas pour elles. L'idée, c'est pas de jeter la pierre, c'est bien d'ouvrir le débat et de montrer autre chose, et de montrer les possibles. Donc, on va entendre Sandrine Dago, qui est plombière sous statut entre auto-entrepreneur et heureuse de l'être. Son entreprise est basée en Midi-Quercy dans le Tarn-et-Garonne. Du côté de la trompette, c'est Lucienne Renaudin-Vary qui a remporté en 2016 une victoire de la musique classique dans la catégorie Révélation soliste instrumentale. Marie Amali, qui est auteure, compositrice et interprète et qui a reçu le prix Claude Nougaro en 2019, qui est de Toulouse et de Montauban. Elena Escriva, instrumentiste, talentueuse, qui joue du tuba, de l'euphonium et du saxhorn, et qui nous vient du Tarn. Et encore Monique Maffre, conjointe collaboratrice dans l'entreprise de travaux publics de son mari. Elle y fait la comptabilité, mais surtout, et c'est ce qu'elle préfère, elle travaille sur les chantiers. Elle vit dans les gorges de l'Aveyron. La première fois que j'ai rencontré Monique, elle refaisait la route qui remonte vers chez moi. Ça m'a interpellée, forcément. D'autant plus qu'elle ne correspondait en rien à l'image que l'on se fait d'une personne exerçant dans une entreprise de travaux publics. Voilà. Monique est une femme de 50 ans et plutôt fluette et qui, a priori, ne semble pas avoir la force physique que l'on croit nécessaire à l'exercice du métier. Elle nous raconte comment elle en est arrivée là, pourquoi elle aime faire des choses avec ses mains. Elle répondra, entre autres, à ces questions. Une femme a-t-elle la force physique nécessaire à ce métier ? Ce métier n'est-il pas trop pénible pour une femme ? Mais bien sûr que la réponse est... vous avez compris que la réponse est oui, puisqu'elle le fait. Mais surtout, elle nous parle de savoir-faire et de l'art de bien faire. Art qu'elle met dans tout ce qu'elle entreprend. On l'écoute.
C'est une toute petite entreprise de terrassement. C'est juste mon mari et moi maintenant qui sommes dans l'entreprise. En fait, je suis conjoint collaborateur. Et au fur et à mesure de l'évolution et du parcours de notre vie ensemble, où il était vraiment tout seul et sur le chantier et au bureau, quoi, j'ai proposé mon aide parce que ça me semblait complètement évident, quoi. Voilà. Donc ça a commencé un petit peu au bureau. Là, c'est pareil, j'ai dû me former aussi parce que je connaissais rien à l'informatique au moment où je l'ai rencontré. Donc là, j'ai été aidée par un stage à l'AFPA où j'ai fait un peu de secrétariat et tout. Ça m'a bien aidée. Et ensuite, de fil en aiguille, évidemment, des fois, donner un coup de main sur le chantier. Oui, j'ai proposé aussi mon aide là-dessus parce que, ben oui, je suis même plus à l'aise sur le terrain qu'au bureau. Au bureau, vraiment, je dois faire les papiers. Pour moi, perso, je n'aime pas ça. C'est plutôt le bazar dans mes papiers. Par contre, après, bon, ben, quand je le fais pour l'entreprise, j'essaye d'être rigoureuse justement parce que je connais mon défaut et donc voilà. Mais le terrain, vraiment, voilà, c'est, je m'éclate plus sur le terrain qu'au bureau. Voilà. Donc c'était pour moi complètement évident, pour moi, pas mon ressenti, d'aller aider, même si c'est de manier une pelle à main. Bon, mais ça s'apprend déjà. Voilà, même qu'on ne soit pas costaud physiquement, on arrive à manier la pelle toute une journée, ou le balai pour balayer la route où tu m'as rencontré la première fois, ou la raclette. Bon, mais voilà, c'est des positions que mon mari m'a apprises d'ailleurs, parce qu'évidemment, la première fois qu'on attrape une pelle, le commun des mortels, même pour faire son potager, ou bon, on se fait mal au dos directement. Ben, quand on sait qu'il faut la manier pendant 6 ou 7 heures dans la journée, il faut le faire comme il faut, sinon on est cassé dès le premier. Donc tout ça, ça s'apprend, voilà, et c'est possible.
Bah oui, t'as l'air en forme. Hein.
Voilà, donc, et c'est plaisant. Enfin, voilà, moi, déjà on est en extérieur, donc ben voilà, on profite du beau temps quand il fait beau. Bon, quand il pleut, c'est un peu plus embêtant, mais tant pis. Voilà. Voilà comment je suis arrivée sur la route.
Alors tout à l'heure on parlait justement de est-ce que c'est possible pour une femme de faire ce type de travail? Est-ce que ça demande une grande force physique? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire et des choses qu'on peut faire? Comment tu fais?
Ce que je ressens, moi, c'est que bien sûr c'est possible de participer à un chantier de terrassement dans une équipe. Évidemment, toute seule, évidemment que je pourrais pas. Parce que forcément, il y a des choses ou des manipulations où je suis, où j'y arrive pas, hein, parce que forcément, j'ai pas la force d'un gars qui pèse 80 kilos. Quoi.
Ouais. Comme par exemple, du coup, là où tu es limité physiquement, où tu t'es retrouvé limité physiquement.
Peut-être dans des assemblages de tubes PVC en gros diamètre qui sont accolés, je parle, parce qu'après, si c'est des gros diamètres à joint, ça. Enfin, on y arrive. Après, il y a des méthodes. Dès qu'on voit que la force n'est plus là, y a toujours un moyen avec des méthodes ou de levier ou de pouvoir enclencher le tuyau dans le précédent. Enfin, voilà. On y arrive. Mais il y a aussi des grosses pièces en fonte qu'on doit manipuler. Là, on fait le levage avec la pelle, l'engin mécanique, je veux dire. Et après, voilà. Après, oui, il y a des moments où forcément on est limité avec la force, mais pas tout le temps. Et puis, si on est dans une équipe, obligatoirement, c'est la complémentarité qui joue. Et à un moment donné, c'est la force qui va y aller. À un moment donné, c'est une affinité peut-être un peu, ou féminine, où on trouve le petit truc qui fait que, attends, si on y va un petit peu plus doucement, si on se met pile en face... hop, ça y va. Tandis que si on y va, allez, je force sans être en face, on peut toujours forcer, ça, voilà. Je trouve que la complémentarité est très très importante et que chacun peut trouver sa place. Et même pour une fille, évidemment, c'est pas évident, ça vient pas à l'idée. Moi, on m'aurait dit, gamine, tu vas travailler sur un chantier de terrassement ou dans une tranchée, j'aurais peut-être dit non, enfin non. J'aurais pas vu comment y arriver, mais là, maintenant, vraiment, c'est vraiment possible, quoi. À partir du moment où ça plaît, aussi, bien sûr.
Ouais.
Voilà. Tout. Voilà. Après, c'est surprenant. Ça, c'est vrai que c'est surprenant. Les gens sont surpris.
Oui. 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 Oui, parce qu'en France, on pourrait dire, donc il y a 6% de femmes qui travaillent dans le bâtiment, et principalement sur des fonctions administratives. Est-ce que ça a surpris les gars qui travaillaient dans l'entreprise?
Alors, c'est un peu particulier parce que l'entreprise est quand même assez réduite. Ça a surpris au départ. Ça a surpris aussi quand on va dans un magasin de fourniture ou de PVC, par exemple, Et qu'une fois c'est arrivé comme ça, où le client m'a suivi au magasin pour aller acheter la fourniture dont on avait besoin chez lui, évidemment, au comptoir, la personne qui nous a reçus s'est adressée directement au monsieur qui était avec moi pour lui demander ce qu'il voulait. Et le monsieur dit « Ah non, non, mais moi, j'y connais rien. Vous demandez à madame. » Ah, donc là, évidemment, oui, ça surprend, évidemment, oui. Mais après... voilà, mais quand le gars s'est rendu compte que je savais ce qu'il me fallait et tout, ben voilà, après t'es... Oui, ça surprend un peu, forcément. Et puis surtout, comme tu dis, le fait d'être sur le terrain, oui, ça surprend. Parce qu'après, dans les bureaux à l'administration, il y en a, un conducteur de travaux et tout ça, il y a pas mal de filles. Et sur le terrain, ça surprend, oui.
Alors, qu'est-ce qui finalement te prédispose à faire ça, le fait que ça te plaise d'être, de travailler avec tes mains? Mais aussi le fait de, finalement, contre tout ce qu'on peut penser, hein, des métiers, des orientations vers les métiers des femmes et des hommes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton éducation, par exemple, qui fait que tu acceptes de faire ça et tu le fais, alors que d'autres ne le feraient pas?
Alors, au sujet de mon éducation, et de mon environnement familial, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, nous avons eu beaucoup de chance, la fratrie, en fait, ma sœur et mon frère, pareil. Mon papa était artisan ébéniste. Et quand il a commencé, en fait, la maison, il y avait deux pièces en bas de la maison. Une pièce pour la cuisine et salle à manger. Et on passait une porte, une toute petite porte, la porte banale qui sépare une chambre, par exemple, d'une autre pièce. Et c'était l'atelier de papa. Donc avec la scie à ruban juste derrière la cuisine, enfin la raboteuse, tout ça, enfin l'odeur du bois, enfin ça c'est, voilà, c'est... L'environnement, la familiale a beaucoup compté parce que ben, évidemment, ben, du coup, on s'est tout de suite intéressés tous les trois à ce que faisait papa. Et maman aussi, maman l'aidait à l'époque aussi, ben, comme je fais maintenant moi avec mon mari, sauf qu'à l'époque le statut de conjoint collaborateur n'existait pas malheureusement. Elle avait aussi sa part de... Elle a eu bien évidemment sa part dans notre éducation, voilà. Et pour en revenir au métier de papa, qui était ébéniste à la base, mais qui après s'est diversifié, parce que ben, travaillant dans un milieu rural, tu dois aussi... Enfin, si tu es en spécialisation, c'est difficile de vivre. Ou alors, il faut aller très loin et tout ça. Et donc, il a fait, dans une maison par exemple, on restaurait des maisons presque de A à Z à l'intérieur, hein, je parle. Et ça m'a toujours intéressée de faire des choses avec les mains. Et dès qu'on a eu la possibilité de le suivre le mercredi quand on n'avait pas école, ben, il nous prenait sur le chantier. Voilà, enfin, et ça, c'est une chance phénoménale d'avoir eu des parents, enfin, de pouvoir suivre. Enfin, pour moi, c'est énorme de pouvoir suivre les parents comme ça dans leur métier, parce que déjà, c'est du temps qu'on passe avec les parents, c'est de l'échange, c'est du savoir-faire qu'on intègre sans s'en rendre compte, finalement, voilà, juste, et qui nous sert tout le temps, voilà, parce que... Ben, et donc ça, oui, ça c'est énorme. Et ce qui fait qu'après, au moment de mon orientation professionnelle, où je voulais être coiffeuse, ben parce que voilà, ça me plaisait aussi, mais il y avait des coiffeuses partout, donc j'ai pas fait ça. Donc je me suis dirigée vers la tapisserie sur meuble. Voilà, donc j'ai fait l'apprentissage avec mon père. Et j'allais une fois par mois au CFA de Muret, voilà, en tant que tapissier. Et à l'époque, il y a 30 ans de ça, mais contrairement à maintenant où ça s'est drôlement féminisé, ce métier-là, à l'époque, je suis arrivée dans une classe où il y avait 30 garçons et j'étais la seule fille, puisqu'on était en plus avec les ébénistes. Donc évidemment, encore une fois, là, à ce moment-là, il n'y avait pas de filles. Alors que, comme tu le dis... Oui, pourquoi ne pas avoir de filles dans ces métiers-là? Parce que c'est hyper intéressant. Voilà. Donc j'ai fait ça, tapisserie sur meuble, c'est-à-dire refaire confectionner des sièges, tenture murale, pose de moquette. Et là, je me suis éclatée dans ce boulot-là parce que c'est On part de rien, on part d'une balle de crin végétal et à la sortie, ça donne un siège parce que vous les avez façonnés, piqués, etc. Voilà, donc ça c'est... Bien sûr que là, mon éducation, c'est... Et ce qui fait que maintenant, moi, ça m'a semblé... Enfin, c'était complètement naturel que j'aille aider, que ce soit sur la route ou... C'est pareil, on peut mettre ses compétences et son et l'amour du travail bien fait, même sur une route ou au fond d'une tranchée, parce que au fond d'une tranchée, il faut pas qu'il y ait un caillou qui reste là et qui endommage la canalisation que vous allez poser après, parce que sinon ça sert à rien. Enfin c'est et voilà, ben pour moi c'est tout à fait naturel, voilà. C'est et oui, les filles peuvent aller là-dedans, oui. Surtout que maintenant, quand même, voilà, on est quand même aidé. Bon, c'est un métier pénible, évidemment, hein, mais il y a des moyens maintenant de forcer moins. Enfin, on est quand même bien aidé à ce niveau-là. Donc, pourquoi ne pas le faire, voilà.
Pourquoi ne pas le faire, voilà.
Vous êtes sur CFM dans C'est qui se travaille. C'était Lucienne Renaudin-Vary à la trompette et Caspar Voss au piano. Et on poursuit avec Monique, qui est ouvrière en terrassement. On l'écoute.
Donc tu as été tapissière salariée ou à ton compte? Tu as exercé ce métier combien de temps?
Pas très longtemps parce que j'ai été salariée, oui, sur Toulouse, là, chez un tapissier. Quelques années, puis après j'ai eu des enfants, donc je me suis arrêtée pour élever mes enfants, et pendant 20 ans, en fait, je n'ai pas eu de vie professionnelle, on va dire. Voilà. Donc je n'ai pas exercé longtemps ce métier-là. Bon, après, évidemment, tout le temps que j'ai passé à la maison, entre guillemets, à élever mes enfants, j'ai occupé mon temps en faisant des choses pour moi à la maison, et... Je faisais des vêtements pour mes enfants, enfin voilà, il faut toujours, pour moi, pour mon bien-être psychologique, on va dire, il faut que mes mains fassent quelque chose, c'est, enfin voilà, il faut de la création, en fait, voilà.
Donc, la création, oui, et de la fabrication.
Et de la fabrication, oui. Ouais.
C'est typiquement, en fait, les compétences de l'artisanat et de l'artisanat d'art.
Oui,
hein.
Ouais. Ouais.
Donc... Donc, tu disais que ton papa était ébéniste et artisan, mais il me semble que tu m'as dit que ton papa cousait aussi.
Oui, bien sûr, parce que quand on est tapissier, quand on est amené à coudre des coussins, voilà. Et oui, la machine à coudre, ça lui... Oui, il cousait des coussins, ou on a eu fait des couvre-lits aussi à l'époque, ou des rideaux, oui,
complètement. Ouais. Donc, c'est vraiment une histoire de famille,
oui.
de... comment dire, de faire des tâches qui sont traditionnellement plutôt du ressort des hommes ou plutôt des ressorts des femmes. Chez vous, les hommes et les femmes font des choses
c'est ça.
qui sont traditionnellement plutôt de l'un ou de l'autre.
Ou de l'autre, oui.
Donc, quand tu dis que tu as fait pendant le temps où tu n'avais pas de vie professionnelle, mais où tu élevais tes enfants, des choses dans la maison, et particulièrement de la couture, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Du coup, est-ce que tu sais, tout faire dans la maison, c'est-à-dire réparer tout ce qui concerne l'électricité aussi enfin, est-ce que, voilà. Qu'est-ce que tu... Une question très précise. Quels sont tous les outils que tu connais, que tu sais manier, que ce soit dans ton travail ou à la maison ? Oh. Tu parlais tout à l'heure de la raboteuse et de la scieuse dans l'atelier de ton père.
Oui, la scie à ruban, oui. Mais quand même, je suis un peu peureuse devant la raboteuse, par exemple, je ne l'ai jamais utilisée. Après, oui, maintenant, moi, j'ai ma scie circulaire, j'ai ma scie sauteuse. J'ai l'ilti de mon papa que j'ai récupéré, la vieille ilti. C'est une perceuse à percussion qui doit peser 10 kilos, même plus sans doute. Maintenant, elles sont sur batterie, elles sont beaucoup plus légères. Mais c'est un héritage. J'ai hérité de la TE-17 de mon père. voilà, la ilti, c'est... Voilà. Quels outils, après, ça me...
Sur le chantier,
je conduisais le compacteur, enfin le rouleau vibrant, voilà, pour quand on fait des chemins et tout ça. Après, j'ai pas la compétence de manier l'appel mécanique, tout ça. Oui, ben, je la manie pas. S'il faut la déplacer, l'avancer parce que ça arrange ou parce qu'elle m'embête à un moment donné, oui. J'y arrive, mais voilà, c'est tout. Ouais.
D'accord. Mais voilà. Ça, de toute façon, c'est des cassettes qu'on passe pour ces engins de chantier que tu n'as pas passé particulièrement.
Non, pas du tout. Ouais. Voilà. Et voilà, après, dans la maison, je fais pas mal de choses dans la maison, c'est-à-dire l'aménagement intérieur. S'il y a des étagères à faire, eh bien, voilà, je fais les étagères, je fais les trous,
Elle est trop modeste. Je suis sûre qu'elle sait faire énormément de choses. En arrivant chez toi, donc j'ai vu des alpagas. C'est comme ça que ça s'appelle, alpagas dans le champ. Et en rentrant dans la maison, j'ai vu un rouet. C'est-à-dire que non seulement un rouet pour filer la laine, donc pour filer la laine d'alpaga. Hein, donc c'est-à-dire que non seulement toi, tu fais des travaux qui sont traditionnellement voués aux hommes, mais en plus, tu fais aussi des choses qui sont de savoir très ancien, finalement. C'est-à-dire que on n'a plus l'habitude de voir quelqu'un qui file la laine. Est-ce qu'on achète encore de la laine pour tricoter des pulls, même? Et est-ce qu'on tricote encore? Alors, c'est quoi cette histoire d'élever des alpagas et de filer la laine? Vas-y, raconte-nous.
Alors, les alpagas, c'est encore une autre aventure. C'est des animaux qu'on a découverts chez des clients. Mon mari en premier. Et quand il est revenu le soir, il me dit « Faut absolument que tu viennes voir ces animaux. J'ai vu des alpagas, les petits, c'est trop mignon et tout. Bon. » C'est un animal hyper intéressant, attachant, apaisant. Et évidemment, l'alpaga, quand on dit alpaga, on pense tout de suite laine. Voilà. L'alpaga, il faut le faire tondre une fois par an pour son bien-être, parce que ici, en plus, c'est des animaux qui viennent quand même du Pérou, donc ici, l'été, c'est vrai qu'il faut qu'ils soient tondus, parce que sinon, c'est pas possible pour eux, quoi. C'est un inconfort total. Et donc, on a fait tondre nos alpagas et on a gardé la laine, évidemment, parce que je m'étais dit, bon, tricoter, ça, je sais, maman m'avait appris quand j'étais jeune, ça me plaît. Et j'ai dit, je veux garder la laine et un jour, je vais apprendre à filer. Alors, la toison d'alpaga, on n'est pas obligé de la laver avant de la transformer, puisqu'elle n'est pas grasse. Il faut simplement, quand je dis simplement, c'est un travail énorme, parce que sur une toison, on passe à peu près 20 heures pour nettoyer chaque mèche de laine à la brosse à chat, en fait, on les brosse. On les dépoussière, on enlève les gaffarousses qu'on a, nous, ici, bien sûr.
Les dreadlocks, tu
veux dire. Ouais, presque. Il faut les démêler, voilà. Voilà. Et une fois que ça, c'est prêt, on passe nos mèches à la cardeuse à rouleau, on obtient une nappe, et à partir de là, on file. Voilà. Et donc l'aventure a commencé comme ça. Donc le rouet que tu as vu en arrivant à la maison, voilà, ça a été un sacré investissement parce que d'occasion on n'en trouve pas. Donc on a commandé ça et c'est fabriqué en Nouvelle-Zélande. Ah bon ? C'est une entreprise artisanale qui ne fabrique le rouet que lorsqu'ils reçoivent la commande. Et je me suis lancée. Et vraiment, c'est super. Le résultat est magnifique, je trouve. Et voilà, de filer, c'est encore de transformer une matière première qu'on a de disponible. Le filage, alors maintenant c'est un peu en vogue, il n'y a aucun impact électrique dans la transformation de la laine d'alpaga. C'est une laine qui est 7 fois plus isolante que la laine de mouton, c'est pas rien. Voilà, après c'était, disons que je suis arrivée à ce que je souhaitais au départ, c'est que là, quand il fait beau, j'installe mon rouet sur la terrasse, je suis en face de mes au milieu de mes alpagas, on va dire, et je file leur laine. Donc c'est un luxe extraordinaire qui vaut tout l'or du monde. Voilà.
Tu disais que tu avais voulu être coiffeuse, que tu as été tapissière, tu as finalement fait une formation de tapissière, qu'ensuite pendant 20 ans tu as travaillé à la maison.
Oui, c'est un travail qui malheureusement n'est pas reconnu. Voilà.
Qui n'est pas reconnu financièrement ou qui n'est pas reconnu non. du tout, tu dirais
Par la société, je veux dire. Même à l'époque, les collègues de mon mari de l'époque, quand on se rencontrait, quand il arrivait mon tour, et toi, tu fais quoi? Ou vous faites quoi? Je suis à la maison, j'élève mes enfants. De suite, on saute à l'autre personne pour lui demander ce qu'elle fait, quoi. Parce que vous n'êtes pas du tout intéressant. C'est pas reconnu à ce sens-là.
C'est vrai, je me demande si moi-même je ne fais pas ça.
Oui, peut-être, parce que c'est sûr qu'à la fin de la journée, quand on te demande qu'est-ce que tu as fait, on a l'impression d'avoir rien fait, sauf qu'on n'a pas arrêté. On s'assoit juste au moment du repas, quoi. Voilà.
Est-ce que tu veux parler de ce travail-là? Parce que c'est rare, effectivement, qu'on parle de ce travail-là. Le travail à la maison, le travail de 20 ans à la maison avec.
Oui, c'est
avec les enfants.
On peut le considérer comme un travail et en même temps, c'est. Je ne sais pas si c'est un travail. C'est un travail, oui, parce qu'on n'arrête pas de la journée. Parce que ce travail-là, déjà, maintenant, beaucoup de gens le font à votre place, on va dire. C'est un travail, bien sûr, c'est un travail, mais c'est aussi. C'est surtout des moments qu'on partage avec les enfants. Moi, je ne le concevais pas autrement. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et je ne le regrette pas du tout. Peut-être je vais le regretter quand on va m'évaluer les points de retraite. Alors là, ça, c'est une catastrophe, évidemment. Ça, c'est sûr. Vu sur ce plan-là, voilà. Oui, mon regret en tant que femme, c'est que ce travail-là ne soit pas reconnu comme il devrait l'être. Au moment justement où on calcule les retraites, évidemment on ne fait rien, sauf que on est quand même là, on est présent pour les enfants, ils arrivent de l'école, ils ont du pain perdu ou des crêpes en arrivant,
Est-ce que tu es contente professionnellement aujourd'hui? Tu disais que tu aimais bien quand même faire ce métier dehors de travaux publics aussi et beaucoup moins le travail de compta.
Oui.
Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été coiffeuse?
Non, parce que je me coupe les cheveux moi-même, donc non, je regrette pas. Non, je regrette pas. Peut-être oui, le regret que j'ai, c'est que j'aurais bien aimé m'orienter vers les beaux-arts, c'est un bien grand mot, mais oui, dans le dessin, tout ça, ou la création, parce que je sens que je l'ai un peu en moi. Toute petite, j'ai fait des caprices à ma mère parce que je voulais pas mettre les chaussettes qu'elle me donnait le matin. C'était un truc sur la mode, si tu veux. Voilà, j'ai aussi cette.
Du coup, plutôt, tu veux dire une école d'art appliquée en stylisme vers la création textile,
ouais, ça,
la création
le dessin, de vêtements, tout, le tout dessin. Ce qui se. Voilà, ouais, c'est. Oui, parce que ça, c'est pareil, jeune, mes parents avaient pas beaucoup de moyens. On a manqué de rien, mais, mais c'est vrai que bon, ben, y avait des trucs qui me... J'aurais mis envie d'avoir ce vêtement-là et tout. Ben, du coup, ça m'a beaucoup servi parce que de toute façon, on ne pouvait pas me l'acheter. Et il y avait une machine à coudre à la maison. Donc la solution, c'était de le faire et de se lancer. Bon, à petite échelle, mais voilà. Et du coup, tout ça, ben, voilà, c'est... Oui, ça, je trouve que si on est... Quand on a peu de moyens, ou, ben, on se débrouille pour autrement. Du coup, ben, ça, ben, c'est la création, hein, tout simplement. Hein. Si vous donnez un sac de Lego à un gamin, il va en faire quelque chose. Hein. Si vous lui donnez une tablette, ben, aussi, il en fera quelque chose. Je suis pas sûre. Après, voilà, il faut développer le sens créatif. Voilà. Et sur le... Oui, c'est ce que je voulais revenir là-dessus, c'est sur le savoir-faire. Hein. Tous ces métiers, tous les métiers manuels qui se perdent ou qui se sauvegardent. Enfin, maintenant, on arrive à les... On prend conscience que, ah, oulala, on va laisser s'échapper un savoir-faire sur tel et tel truc. Et hop, on va... C'est très, très important. Enfin, je trouve ça très important de... que les gens continuent à savoir faire les choses. Parce que, bien sûr, pour le moment, tout va... Enfin, voilà... Tout va très bien, tout va mal, on dit tout va mal, mais quand même, tout est facile, quoi. Il faut quand même dire tout est facile. On veut un truc, hop, on va l'acheter. Voilà. On ne réfléchit pas comment on pourrait le faire si on n'avait pas les moyens d'aller l'acheter. Ou... Mais le savoir-faire, fabriquer, c'est... Voilà, je trouve ça très, très important.
Eh bien, écoute, on peut finir là-dessus parce que c'est une belle réflexion sur, du coup, le travail. Hein,
oui, c'est ça, le travail, oui. Le métier, le voilà, métier, le métier.
Ouais.
Et pas l'emploi.
Et pas l'emploi. Bravo. Merci beaucoup, Monique.
Avec plaisir.
Vous venez d'entendre le sax bac ensemble avec Elena Escriva au tuba dans une œuvre de Georges Bizet, Jeu d'enfant. Et puis on poursuit ces portraits dans le bâtiment et les travaux publics avec le portrait de Sandrine Dago qui, après des études d'ingénieur, a suivi s'est reconvertie dans la plomberie. Elle est venue s'installer en Midi-Quercy où elle exerce actuellement. Et je repose la question, la plomberie, c'est vraiment fait pour les filles? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je n'hésite pas à faire cette blague. Il ne s'agit pas de vous mettre au parfum, ce qui aurait encore une connotation très féminine, n'est-ce pas? Je dirais plutôt que je vais vous donner ce tuyau. Voilà, je l'ai fait la blague. Plombière chauffagiste est le métier qu'il vous faut. Et qui ne connaît pas la crise? On écoute Sandrine.
Je m'appelle Sandrine Dago, j'ai 44 ans. J'habite à Verfeil et je suis plombière chauffagiste de métier. Donc, pour raconter un peu mon parcours, moi j'ai commencé par faire des études. J'étais plus dans l'environnement, dans le scientifique. Donc j'ai fait un BTS à la biotech. Après, je me suis lancée en IUP génie de l'environnement. Voilà, j'étais dans les contrées de Metz, là-haut. Et revenant après mes études, à mes 24 ans, on va dire que je suis revenue dans le secteur. Moi, je voulais habiter vers Verfeil, Saint-Antonin, Verfeil. J'ai pas trouvé de métier du coup adapté vraiment à mes diplômes, quoi.
Qu'est-ce que c'était ces diplômes? Ils amenaient à faire quel genre de métier, pour faire quoi du coup?
Eh ben c'était du coup vraiment analyse des polluants, on va dire dans l'industrie, et donc analyse des polluants sur le vivant. Et effectivement, bon, dans ce secteur d'activité, sur effectivement Verfeil Saint-Antonin, il n'y a pas vraiment de quoi. Donc j'essayais quand même de rentrer dans le tri des déchets, parce qu'on n'était même pas à l'heure du tri des déchets. Donc je me suis heurté aux politiques. Bon, ça n'a pas marché. Ils ne m'ont pas embauché là-dedans, ils m'ont embauché au Greta. Avec la Comcom, via la Comcom, j'étais embauché au Greta. Mais bon, je ne m'y suis pas plus, en fait. Donc là, j'ai fait, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, je vais faire plombière. Voilà. Mais bon, parce que depuis toute petite, j'avais quand même une petite accroche. Pour tout ce qui était manuel, j'aimais bien bricoler, déjà depuis toute jeune. Donc du coup, je me suis dit, allez, je vais à l'AFPA, et je vais leur demander de m'inscrire. Et du coup, comme j'étais une femme, ils m'ont fait passer un peu devant tout le monde, je dois bien le dire. Un mois après, je rentrais en formation à l'AFPA, pour un an de formation. Et c'était vraiment super. Ça c'était vraiment très très enrichissant, parce que du coup, c'est formation adulte, qu'on se retrouve... Il y a de tous les âges, quoi. Il y a vraiment de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment une année qui était très riche. Voilà. Et sorti de là, je suis allée partie faire ouvrière, parce quand on sort de l'AFPA, on ne connaît pas le métier, il faut bien le dire. Donc là, j'ai fait ouvrière chez Bertrand Faucon pendant 10 ans, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà, super patron. Donc voilà, au début, c'était pas si facile sur les chantiers. Avec les autres corps de métier, ça pouvait être un peu... quand on est jeune, pas sûr de soi, c'est un peu dur. Après, une fois qu'on prend vraiment de l'assurance dans le métier, qu'on arrive à avoir l'assurance qu'il faut, ça pose plus de soucis, en fait. On est très vite respecté, il n'y a aucun problème, il y a beaucoup d'entraide. Moi, ça se passe très, très bien sur les chantiers, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. On m'aide beaucoup d'ailleurs, du coup, comme je suis une femme, ils me voient y porter, ils viennent m'aider. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ouais. Voilà, quoi dire.
Mais si, on peut revenir sur cette question de la famille ou l'éducation. Vous dites que vous aimiez bricoler, mais en
oui.
fait, donc...
Voilà, moi, c'est que je suis... Moi, en fait, du coup, je suis d'une famille... féminine, parce qu'on était 5 filles à la maison avec ma mère, quoi. On était 4 filles plus ma maman, parce que notre papa il n'était pas présent, il était mort quand j'étais toute jeune. Donc du coup, il a fallu qu'on se débrouille, quoi. On n'était que des filles à la maison, donc il fallait se débrouiller, il fallait bricoler. Donc c'est vrai qu'on était toutes un peu comme des bricoleuses. Voilà, ce qui a permis aussi effectivement cette orientation vers une activité manuelle, quoi. Voilà.
D'accord. Donc, quand vous étiez petite, vous maniez les outils, vous répariez quoi? Comment ça se répartissait à la maison, les tâches?
C'est vrai que je réparais la chasse d'eau. Par exemple, des WC, souvent, ça, c'est toujours le problème. Hein. Ça, c'est souvent en panne. Donc, ça, c'est moi qui le changeais. Les petits joints de robinet. Voilà, des choses comme ça. Je passais la débroussailleuse. C'était rigolo. Voilà, puis on peignait, on ponçait dans la maison. Voilà, c'était... Il y avait de l'activité.
Aujourd'hui, dans le métier que vous exercez, est-ce que la force physique, du coup, qui est plutôt masculine, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire et que vous ne pouvez pas faire? Est-ce que c'est un handicap?
Non, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, quand même, on n'est plus sur des grosses installations acier. Maintenant, c'est vachement plus léger. Moi, je dirais, le métier a vraiment évolué. On est sur du avec du PVR, c'est vachement... C'est, je pense, bien moins difficile qu'à une époque. Maintenant, c'est pour les femmes, on peut très bien faire plombier, il n'y a aucun problème. Et puis il y a les outils qui vont bien pour soulever les charges, pour s'alléger au niveau de la force, quoi. Donc non, il y a vraiment au niveau force, il n'y a aucun problème, quoi. Et si vraiment, moi, quand j'ai besoin de transporter, mais comme tous les plombiers, j'appelle du monde, et ça en est plusieurs, quoi. Parce que seul, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire seul, de toute façon, qu'on soit un homme ou une femme. Donc là, on s'y met à plusieurs, quoi. Donc voilà, moi, je travaille avec plusieurs amis, il y a un électricien, un maçon, il y a plusieurs corps de métier autour de moi qui gravitent, et on s'entraide, en fait, voilà. Moi, j'avais du coup, quand même, sur ce parcours, avant de me mettre à mon compte toute seule, j'ai été aussi en SCOP avec des amis. On avait créé une SCOP.
Qu'est-ce que c'est une SCOP?
Une société coopérative. Et du coup, on était assises dedans avec tous les corps de métier. Mais le problème, là, on s'est heurté que, quand même, en fait, ça coûte cher. Ce qu'il faut, la pro BTP, c'est obligatoire. Donc, ça, rien que ça, ça nous coûtait. Il nous fallait la décennale, il fallait sortir par mois. On a un frais fixe, on était à plus de 2005. Donc voilà, c'était. Bon, on n'y est pas arrivé. On n'est pas arrivé à nos fins. On a duré 4 ans, quoi. La SCOP équilibre. Et du coup, en partant de là, je me suis mis à mon compte. Mais finalement, en travaillant toujours avec ces mêmes personnes, mais chacun à leur compte, quoi. Voilà.
D'accord, le montage était beaucoup plus facile de cette façon-là.
Voilà, coup, exactement.
Économiquement, ça correspondait plus à.
Voilà, tout à fait. Ouais.
À ce qui rendait l'activité rentable, c'est ça, en fait.
Rentable, oui, voilà. Et puis, rentable, on va dire ça comme ça. Ouais.
Et donc aujourd'hui, vous êtes sous statut auto-entrepreneuse.
Oui.
En travaillant en réseau, du coup, avec d'autres corps de métier.
Exactement.
Comme si vous étiez une équipe, mais chacun est à son compte. C'est
voilà.
Comme ça que ça marche.
Oui, voilà. C'est comme ça que finalement, ça reste plus simple. Malgré que c'est vrai que l'idée de la SCOP, c'est super, quoi. Je pense que vraiment, c'est réalisable, mais il faut être vraiment avec des personnes de confiance qui veulent vraiment travailler. Et partir quand même avec un peu de sous à la base, quoi. Avec quand même un petit capital.
Voilà. Oui, c'est peut-être là que le bas blesse, finalement. C'est le capital pour démarrer.
Pour démarrer.
Pour qu'on puisse ensuite...
Voilà.
Le temps d'avoir une activité suffisante pouvoir tenir.
Hein. Oui, tout à fait.
C'est ça. Parce que l'idée de la SCOP, c'est... Enfin, une société coopérative de production, c'est... il y a un gérant ou une gérante, mais on est tous salariés. Et le principe, c'est un salarié, une voix. On est salarié,
voilà.
On a une voix. Et c'est une forme démocratique, en
Exactement.
Fait, de statut d'entreprise.
Nous, on était même deux. On s'était mis co-gérants. On était deux à faire les gérants, ouais. On était en co-gestion. Oh non, après, c'était une bonne expérience. Hein. C'était sympa aussi. C'est vrai.
Sur le métier en lui-même, est-ce que vous pouvez raconter ce que vous faites au quotidien, en fait? C'est quoi, une journée ou une semaine?
C'est très, très, très divers.
Et... Qu'est-ce que vous faites, en fait? Moi, je ne sais pas. Enfin, si on sait qu'un plombier, ça...
Oui, voilà. J'ai des chantiers où donc, je fais des créations de salles de bain ou des créations de chauffage. Donc, j'installe des chaudières, j'installe des radiateurs, donc des baignoires, des douches. Donc, voilà, il y a tout ce côté-là. Puis après, il y a tout le côté dépannage aussi. Donc, voilà, les fuites... Les chaudières qui tombent en panne. Donc, c'est quand même un métier où on ne s'ennuie jamais. On court. C'est très divers. Parce que moi, c'est vrai que je fais de la rénovation, je ne fais pas du neuf. Donc, ça, c'est toujours différent. C'est très divers, très diversifié, quoi. Comme activité, on ne fait jamais la même chose. C'est pas redondant, quoi.
Est-ce que vous avez des spécialités en type d'installation de chauffage, de chaudière, de type de chauffage
Des spécialités. Bon, moi, c'est vrai que même si c'est voué à disparaître, tant mieux que ça disparaisse, mais c'est vrai que moi, je m'y connais bien en fioul. Toutes les chaudières fioul, ça, je m'y connais bien. Mais bon, ça, c'est pas pérenne comme histoire.
Pourquoi ?
Parce que le fioul, ça va disparaître. À un moment donné, il n'y en aura plus. Mais bon, il y a le bois. Après, moi, là, c'est vrai que je commence à en avoir fait un petit peu, là, des installations bois. Ça, c'est très, très intéressant. Ouais. Ça, c'est vraiment pas mal. On revient même des fois sur des installations en thermosiphon, c'est-à-dire sans accélérateur. On est sur des gros tuyaux en cuivre et on se régale à travailler le cuivre, à façonner le cuivre, quoi. C'est super. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est un métier. Moi, je me régale. Puis voilà, on a de la liberté malgré tout. Bon, c'est sûr qu'après, il ne faut pas tomber sous la pression des clients parce que c'est quand, ça sera fait quand. Bon, il faut juste être détendu avec ça, savoir dire non. Mais sinon, c'est vraiment un métier qui est très agréable. On voit plein de monde, on côtoie plein de gens. On voit plein de maisons, plein d'endroits.
Ouais, vous allez toujours à domicile. Vous travaillez chez des particuliers, pas voilà. Vraiment pour d'autres pour d'autres entreprises.
Non, moi je travaille chez
des particuliers, de gros chantiers, de grosses installations, de gros bâtiments.
Non, moi c'est vrai que je suis revenue sur des chantiers plus légers en termes. Ouais, voilà. Moi, c'est vite très prenant. Les gens, ils sont très procéduriers en plus. Donc, quand on est dans des grosses machines comme ça, c'est pas le même confort quand même. Hein. C'est plus stressant, quoi. Donc, moi, c'est vrai que je préfère faire mes petites installations chez les particuliers. En général, c'est eux qui m'aident, c'est eux qui me font manœuvre, mes clients. Du coup, voilà, ils sont bien impliqués aussi dans tout ce qui se fait chez eux. Voilà, donc c'est pas mal.
Ça, c'était une modalité que je connaissais pas, en fait. On travaille avec son client qui voilà. Sert de manœuvre.
Exactement.
C'est extraordinaire.
Et ça, c'est vraiment pas mal. Comme ça, il connaît aussi bien l'installation que nous. Et il peut se débrouiller. Après, il peut être bien plus autonome aussi sur son installation. Quoi.
D'accord. Bon, voilà. C'est vraiment intéressant. Parce qu'il y a aussi l'achat des fournitures, etc. Ah bah et donc là, vous êtes quand même, vous, quasiment à quoi 40 km de Villefranche, 40 km de Montauban, de Caussade.
C'est vraiment la galère, il faut bien le dire, en campagne. Donc du coup, bon, il y a Internet, heureusement. Donc moi, je me fais livrer à la maison. Voyez, voilà, moi,
d'accord.
J'ai mes fournisseurs, par exemple, à Caussade, mais ils me livrent directement à la maison. Donc d'accord, ça, c'est quand pratique. Même super pratique, heureusement. Et voilà, du coup, donc... Pour l'approvisionnement, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a quand même quelques quincailleries qui vont bien. Nos petites quincailleries de village, il y en a quand même qui nous aident bien.
Mais, ah bon, il y en a encore?
Oui, il y a Kélus, il y a la Guépi, qui sont pas mal du tout. Voilà, pour se dépanner, c'est bien, quoi. Mais voilà, du coup.
D'accord. Donc, vous êtes sous statut auto-entrepreneur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce statut et de ce qui vous apparaît comme étant les points positifs et peut-être qu'il y a des points négatifs dans ce statut?
Alors, du coup, donc, auto-entrepreneur, bon, bref, moi, j'aime bien parce que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui a envie de gagner vraiment beaucoup de sous. Moi, je me contente de pas grand-chose, on va dire. Parce qu'effectivement, avec un statut auto-entrepreneur, moi, je ne vends pas de matériel. Donc, je ne vends pas les baignoires, je ne vends pas les douches, je ne vends pas les chauffages. C'est le client qui achète. Et voilà, moi, je pose. Et effectivement, d'habitude, sur des métiers comme le plombier chauffagiste, là où ils se font vraiment beaucoup de sous, c'est en vendant le matériel. Ils sont aussi vendeurs, c'est aussi commerçants. Donc moi, je ne prends pas, effectivement pas cette partie de l'histoire. Mais du coup, donc, moi, je n'ai pas besoin de comptable. C'est très allégé. Bon, j'ai quand même 25% de charge sur ma main-d'œuvre, ce qui est quand même énorme. Mais ça, en démarrant, on a des aides comme l'acre et tout. Donc, les premières années, quand même, c'est plus sympa. Mais effectivement, au bout de 5 ans, là, on est plein pot, on est à 25% de charge. Donc, c'est plus difficile. C'est sûr que c'est quand même beaucoup de charge. Mais il n'y a pas besoin de comptable, il n'y a pas besoin de tout ça, quoi.
Oui, c'est une gestion qui est facilitée.
Qui est très facile, oui.
Oui.
Et voilà. Donc, on ne peut pas effectivement vendre du matériel. Oh, il n'y a pas la TVA, on ne récupère pas la TVA. Donc voilà, ça dépend de ce qu'on veut en fait. Ça dépend si on veut gagner beaucoup, faire une grosse entreprise. Ça, vraiment, c'est des choix. Ou rester petit et faire ses interventions.
Voilà, c'est un choix qui vous va bien par rapport à ce que vous avez envie de vivre à côté.
Exactement.
De votre travail.
Voilà, tout à fait.
Malgré tout, du coup, est-ce que vous arrivez à mettre de l'argent de côté, parce que quand on pourra partir en vacances?
Oui.
Parce qu'on a peur, hein, surtout de ne pas prendre de vacances.
Après, non, non, mais si après, c'est quand même un métier. Ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours du boulot, déjà. Ça, c'est quand même... C'est vrai, ça ne manque pas de travail, c'est pour bien le dire.
Il y a toujours plus de demandes que pouvez faire.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair et net. Et donc, du coup, quand même, ça permet d'avoir une vie confortable, quoi. Et d'avoir... Une certaine liberté qui n'est pas des moindres, quand même. Voilà, on a quand même la liberté, quoi.
En fait, les clients viennent à vous, vous n'avez même pas besoin de faire de la communication.
Non.
Ou de dire... Il suffit d'être dans quoi? Il suffit d'être inscrit dans les pages jaunes et ou d'avoir, enfin, d'avoir pignon
voilà.
Sur rue d'une
Après,
façon ou d'une autre.
De toute façon, ça se fait assez rapidement, ça de vraiment de progresser, bon, et voilà, de se faire connaître. C'est du bouche à oreille. Hein.
C'est du bouche à oreille si vous êtes bon. Si vous n'êtes pas bonne, il n'y aura pas de bouche à oreille. Il ne sera pas bon.
Oui.
vous y êtes pour quelque chose quand même, non?
Oui, peut-être.
Peut-être. Non, c'est sûr. C'est sûr.
Mais en tout cas, c'est vrai que bon, moi, je conseille que vraiment, c'est un métier. Si on veut travailler, et c'est super agréable parce qu'on rencontre plein de gens. On peut choisir ses clients. Moi, je choisis mes clients. Il y a des clients avec qui je ne veux pas travailler parce que je sens qu'on ne va pas s'entendre. voilà, on peut quand même aussi choisir les gens avec qui on va travailler, quoi.
Donc c'est, choisir c'est... ses clients, pouvoir dire non.
Ouais.
Et s'aménager, en fait, le travail et la vie qu'on a envie de faire.
Exactement. C'est ça que vous nous dites. Tout à fait.
D'accord. Si on en revient aux gestes et aux techniques que vous utilisez, est-ce que vous pouvez rentrer un petit peu dans la technique, dans la fabrication, dans les outils que vous utilisez?
Alors moi, dans les outils que j'utilise, du coup, ça va dépendre si je suis sur du cuivre ou si je fais du PER, parce que bon, maintenant, c'est beaucoup de plastique. Et donc, voilà, j'ai des cintreuses, j'ai un chalumeau.
Vous soudez?
Voilà, il faut souder, c'est super agréable à faire, hein, y a pas de problème. J'ai un gros burineur parce qu'il faut faire des percées dans les murs. Voilà quoi, gros perfos, il faut faire des saignées, des tranchées. Il faut, voilà, on perce le bois. Bon, voilà, ça dépend aussi si c'est des maisons bois ou si c'est des maisons, ou des maisons pierre, selon les rénovations. Voilà.
Il pense que tout est simple. Pourquoi, pourquoi ça ne pose pas, là?
Quand on arrive sur une installation, il faut arriver à trouver les bons chemins de passage pour les tuyaux. Il faut arriver à être assez pertinent, oui, voilà, dans la création du réseau, quoi. Donc, voilà. Après, il faut tracer, il faut percer, il faut accrocher les tuyaux, il faut façonner les tuyaux. Et il faut brancher, après, tous les éléments qu'il y a à brancher dessus. Bon, moi, ce que j'aime le moins, c'est le PVC. Tout ce qui est évacuation, ça, c'est ce qui me plaît le moins. Mais bon, faut bien le faire. Hein. Mais bon, voilà, c'est là où on est arrivé sur des gros œuvres, sûrement, parce qu'on passe en tuyau de sang. Donc là, il nous faut du gros perfo, il faut arriver à passer des ouvrages, passer des murs. Dans nos campagnes, on a des murs qui font presque un mètre de large, donc il faut arriver à les passer, quoi. Donc du coup, voilà, c'est le travail archéologique aussi.
Ouais, parce que c'est vrai que le métier de plombière, du coup, c'est un métier indispensable, moi je trouve, parce que quand on a une fuite d'eau à la maison, on est obligé de couper l'eau, on n'a plus d'eau, quand il n'y a plus de chauffage et qu'il fait froid l'hiver, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il faut que vous interveniez, du coup, rapidement.
Ah ben c'est ça, après c'est sûr qu'il faut être quand même vraiment très disponible. C'est un métier où il faut quand même être très disponible. Donc on a la liberté, mais il faut pouvoir quand même se rendre très disponible aussi.
C'est quoi votre amplitude horaire? Vous pouvez démarrer à quelle heure et finir à quelle heure?
Oh là là, ça dépend. C'est vraiment hyper variable. Bon, c'est vrai que je ne décolle pas très tôt de la maison. C'est-à-dire, je décolle à 8h30 le matin, 9h, ça dépend. Et le soir, je peux rentrer 7h. Ça dépend. 7h, des fois, plus tard que ça, 8h. Ça dépend.
Vous travaillez le week-end?
Non.
Ou vous vous accordez? Non, vous
travaillez. Alors là, je refuse de travailler le week-end.
Ni le samedi, ni le dimanche?
Ni le samedi, je le refuse. Sauf si vraiment, effectivement, il y a une personne âgée qui est en panne de chauffage, bon, là, je suis obligée de me déplacer.
D'accord, uniquement une personne âgée, pas les autres?
Non.
D'accord, c'est vos critères. Bon, bah, écoutez, c'est comme ça.
Non, ça dépend. Si y a un bébé, mais sinon, c'est vrai que j'essaye de garder mes week-ends pour me refaire un peu le corps aussi, parce que, bon, voilà, quand même, c'est quand même des métiers où on est dans des postures de travail qui ne sont pas forcément confortables tout le temps. Donc, moi, je fais du yoga à côté aussi pour pouvoir quand même... Parce que sinon, c'est ostéo tout le temps. Voilà, il faut quand même prendre soin de soi. Parce que ça, voilà, c'est des positions qui sont pas faciles, quoi. On est sous les éviers, on est plié des fois en menu morceaux. Voilà. Je l'ai déjà dit presque. Non. moi, vraiment, c'est vrai que moi, je dis vraiment, il faut se lancer. J'encourage... les jeunes filles et les jeunes hommes aussi, tout le monde, à se lancer dans la plomberie, parce que c'est vraiment pas... C'est pas compliqué, c'est pas dur physiquement. Il y a quand même vraiment moyen d'apprendre un métier où on sait qu'on va avoir du travail et qui sera pas forcément pénible, comme on peut le croire, comme on peut l'imaginer. Il sera même agréable, avec beaucoup de contact humain, pour les gens qui aiment les humains, qui aiment le contact humain. Là, c'est très riche.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore la capacité d'accueillir des stagiaires, ou est-ce que c'est compliqué pour une toute petite structure comme la vôtre?
Non, pour moi, c'est compliqué, ouais.
Pourquoi?
Parce que j'arrête pas de bouger. C'est vrai que je suis en perpétuel mouvement. Donc, si j'avais un gros chantier, voilà, effectivement, quand il y a un gros chantier, là, ça peut être intéressant de voir vraiment toutes les phases du chantier et tout.
Oui.
Mais moi, comme là, je suis sur plusieurs chantiers en même temps où vite, je vais poser mon encastré. Hop, je repars là-bas, je vais poser l'encastré. Hop, je retourne là, je vais plugger. Moi, je suis en perpétuel mouvement. Pour moi, c'est pas simple, non.
D'accord.
Là, je dois avouer que...
Donc, en fait, pour pouvoir se faire une idée du métier, hein, puisqu'il y a des possibilités de faire des stages dans les entreprises,
oui.
Vous recommanderiez plutôt que les personnes s'adressent à des entreprises où il y a plus de salariés, qui sont mieux, plus structurés,
voilà.
Où c'est plus, où les conditions sont meilleures pour accueillir des stagiaires.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est
moi,
ça.
Je pense que oui. Parce que moi, rien que mon petit expert, là, mon petit camion de travail, je dirais qu'il est tellement plein que je ne peux même pas faire monter quelqu'un à côté de moi.
D'accord.
Il n'y a même pas la place pour que quelqu'un monte à côté de moi. Non, après, voilà, il faut avoir du temps. Ce qui est bien, c'est de pouvoir accorder du temps. Quand on a des stagiaires, il faut pouvoir leur accorder du temps pour leur montrer vraiment la mise en œuvre. Moi, c'est vrai que là, je suis... Ouais, non, j'ai pas le temps. C'est sûr.
Qu'est-ce que... Vous disiez que vous aviez vraiment envie de venir travailler ici, du coup,
vivre.
Vers Faye-Saint-Antonin, vivre ici.
Vivre.
Pourquoi ?
Ben, parce qu'en fait, moi, je suis née à Saint... Bon, je suis pas née à Saint-Antonin. Je suis arrivée toute petite à Saint-Antonin. Et du coup, bah, j'avais quand même un tissu amical et vers Faye, il y avait le festival Décrocher la Lune à l'époque, association Acte 2, donc auquel je participais tous les étés. Et vraiment, j'avais envie de me retrouver dans cet univers-là avec les musiciens, avec cette dynamique qu'il y avait autour de ce festival, autour de cette association culturelle Acte 2, bon, qui n'existe plus maintenant, mais. Et du coup, c'est pour ça que vraiment, je voulais venir. Puis j'avais fait quand même Metz, j'avais fait les Pyrénées-Orientales, j'avais travaillé un peu vers 7, là, dans l'Hérault. Et bien, non, moi, je voulais, finalement, c'est pas là où ça me plaisait. Moi, je voulais vivre à Verfaye.
Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. Donc, Verfaye, je le dis pour les auditeurs, c'est... En pays Midi-Quercy, dans le Tarn-et-Garonne,
voilà.
Au bout des gorges de l'Aveyron, on va dire entre Saint-Antonin et Najac, quelque chose comme ça.
On va dire ça comme ça.
Un petit village de combien d'habitants ?
Oh ben on est 300, je sais pas, 350, je crois, quelque chose comme ça maintenant, dernier recensement, peut-être même un peu plus, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui sont arrivés parmi nous, ce qui est super. On a eu plein
de nouveaux arrivants.
Plein de nouveaux arrivants avec des enfants. Et du coup, ça a remis une vie dans ce village impressionnante, bien agréable.
Merci beaucoup.
Voilà.
Et avant de se dire au revoir, on va écouter Marie Amalie et le blues, qui chante le blues du poulpe. Marie Amalie, elle est franco-libanaise, de Toulouse et de Montauban. Elle a été lauréate du prix Claude Nougaro en 2019. Ses prochaines dates à Toulouse seront le mercredi 29 avril à la Maison Blanche, à Toulouse, et le 26 mai à l'Espace Bonnefoy pour les sélections du tremplin Décroche le son. On l'écoute. Au revoir.
À l'aise, en bas d'une falaise, je vois le soleil se coucher, grignoter mes pensées sans qu'il ne déplaise. À vous de laisser mariner mon âme dans ce fond, très fond, je fais des ronds. Ah, je m'ennuie de mon idée partie. Si l'océan redonnait à mes yeux blessés la vision, les objets délaissés, parfois oubliés, écrirait ton nom avec l'encre que j'ai retrouvée au fond de mes cartons. Ah, je m'ennuie depuis que je suis ici. J'ai le blues du poulpe qui vit dans un puits sans fond, dans une coquille vide et attend que le temps soit moins long. J'ai le blues du poulpe naufragé sans horizon, sinistré par des fuites sans raison. Et là, que vois-je là au loin? Un point qui s'écrase sur moi, rebondit dans mes bras. Mais que fais-tu là? Dis-je à ce petit être étrange qui possède 10 doigts. Dis-moi, c'est bien là-bas. Ah, j'ai l'oubli depuis que je suis ici. Il me dit qu'il est tombé. Par erreur, il a trébuché. Je ne peux pas déranger, dit-il apeuré. Je vois dans ses yeux une idée qui obstine ses pensées. Une fille, tu sais, petit, moi je m'ennuie de la mienne qui est partie. J'ai le blues du poulpe qui vit sous un puissant fond, dans une coquille vide et attend que le temps soit moins long. J'ai le blues du poulpe naufragé, sans horizon, sinistré par des fuites sans raison. Je vois dans ton regard hagard, remonte donc à la surface, je t'aiderai s'il le faut. Tombe pas dans le piège de ma prison de liège, rejoins ton amour éternel. J'ai le blues du poulpe qui vit dans un puissant fond, dans une coquille vide et attend que le temps soit moins long. J'ai le blues du poulpe naufragé, sans horizon, sinistré par des fuites, sinistré par des fuites, sinistré par des fuites. Sans raison. Sinistré par des fuites, sinistré par des fuites, sinistré par des fuites sans raison.